Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Terrain Vague. Vous ne me voyez pas, mais à chaque fois que j'entends ce générique, je danse derrière le micro. Bonjour Bruno en régie, ça faisait longtemps. Et bonjour à notre invité Salamèche.
Salut à tous.
Salut. Alors Salamèche, c'est un artiste pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, on va parler de toi pendant 30 minutes. On va parler de ton parcours, on va parler d'où tu viens, du graffiti, de la place qu'il avait, ou qu'il a toujours, même d'ailleurs, dans ton quotidien. Et on aura un petit interlude musical, comme je le fais à chaque fois avec chaque artiste. Tu nous racontes un petit peu déjà ton parcours.
Avec plaisir. Ouais. merci de m'inviter, c'est sympa. Je suis Salamèche,
yes.
Montpelliérain.
Ouais. Un vrai, t'es né ici.
Un vrai de vrai, je suis né ici.
Oh.
Voilà.
Ils sont rares ceux-là.
C'est ça. artiste, graffeur, muraliste, peintre. Voilà, j'ai grandi dans les cultures urbaines.
Ouais.
J'étais jeune adolescent dans les années 90, donc on va dire que j'étais en plein dans les cultures urbaines et dans la culture hip-hop dès le départ.
Ouais.
Autant à la maison que dans ce que je faisais, parce que j'étais beaucoup dans les skateparks, roller au pied. C'était la grande mode du roller à l'époque.
Mmh. On m'a dit que tu faisais du roller.
Voilà, j'en fais toujours d'ailleurs.
Et t'en fais toujours.
Voilà, je m'entretiens.
Ah, c'est bien.
Tu vois.
C'est bien, il faut garder la forme.
Et en fait, j'arrive dans le graffiti justement par l'intermédiaire de cette culture-là, en fait, parce que... à la maison, il y a du hip-hop. Mon papa, il est marseillais, il écoute du rap de Marseille parce que c'est déjà populaire,
ouais.
Ça passe déjà à la télé et puis c'est un peu nouveau.
Voilà. T'as papa déjà qui te met dans le bain, quoi.
Mais nous, avec mon frère, on est en réaction avec ça et on écoute plutôt du métal et du hard rock et tout ça, tu vois.
Ah,
faut pas faire comme papa.
Mais je te vois tellement pas écouter du métal.
Ouais, c'est ça. Donc,
ah oui,
nous,
d'accord.
On n'est pas...
Mon papa un peu rebelle déjà qui écoute du rap et vous encore plus, quoi.
Voilà, ouais, presque. Mais même dans le métal, y avait un peu de cette culture hip-hop qui transfusait un peu en filigrane avec des groupes comme Rage Against the Machine, des choses comme ça. C'était c'était un peu un mix. Mais il y avait cette culture déjà skate, les baggy, les trucs comme ça, aussi dans le métal et tout ça. Donc,
c'est vrai.
Donc voilà, et moi je suis dans les skateparks et en fait, je vois des graphes de partout.
Et oui.
Dans les magazines qu'il y a à la maison, il y a des pages consacrées au graffiti. Et puis moi, je dessine.
J'allais te dire, tu dessinais aussi déjà avant d'arriver au graffiti, ouais.
Je dessine déjà depuis que je suis tout petit, en fait, je fais que dessiner tout le temps. C'est un truc qui est naturel, quoi.
Ok.
Donc je me dis, moi je veux participer à ça. J'ai pas de quelqu'un qui m'imite ou quoi que ce soit.
C'est toi tout seul.
Je tagouille déjà un peu, tu vois, dans les toilettes du collège. Je fais tout ce que tout le monde fait un petit peu, tu vois. C'est vraiment des prémices. Mais je me dis dans ma tête, je veux participer à ça. Pas être
juste,
le meilleur, pas révolutionner le cutru ni rien. Mais je me dis, je vais en faire.
Ok. Je fais partie du mouvement, quoi.
Ouais, voilà. Et en fait, à l'époque, à Montpellier, il y avait un magasin qui s'appelait Coma Sound Cartel, qui était tenu par Desch. Par les C4 et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, quand je grandis aussi, y a cette explosion du groupe C4 dans la ville.
Ouais.
Donc, il y avait les TDM qui faisaient des fresques.
Tout à fait.
Des belles fresques et tout ça. Donc,
qu'on pouvait
voir. Ouais. Et puis, on les connaît encore aujourd'hui.
Mais oui.
On les voyait et nous, ça nous impressionnait. Quand tu as 14 ans et que tu vois des murs des TDM, tu prends des grosses claques, quoi. Et aussi, on avait ce mouvement des C4 qui était très visible, très présent. Et on se mangeait des gros graphes C4 dans la tronche à longueur de journée. sans savoir ce que c'était, donc ouais. C'est fascinant parce que t'es petit. Et en plus de ça, moi, que je faisais du roller, il y avait les auteurs de ces graphes-là, ouais. Je faisais du roller avec eux. Et pour moi, c'était les grands, en fait.
D'accord. T'avais quel âge, à peu près ?
Moi, j'avais 14 ans. Tout
d'accord,
ça,
ok, ouais. Oui, vraiment ado.
Ouais, voilà. Okay. C'est 1999, tu vois, d'accord. C'est même pas encore l'an 2000. On te parle de l'an 2000, enfin, c'est ouf, ouais. Tu vois, dans ma tête, c'est fou.
Ah ouais, il se passe plein
c'est
de trucs,
c'est la révolution
quoi,
totale.
Ah ouais, excellent.
Et moi, en fait, à cette époque-là, je vais à Commerçant de Cartel, pas pour acheter des bombes ou des marqueurs, mais pour acheter des vinyles. Je commence, tu vois là, je réembrasse un peu la culture hip-hop justement.
À travers le
vinyle, parce que j'ai mon premier ampli et que en fait, je veux me faire ma petite collection et donc d'accord. Je m'achète des vinyles. Tu vois, For My People, des vinyles de la FF, des vinyles de IAM, okay. Des trucs
oh
comme
là
ça.
Là, c'est vintage tout ça.
C'est à l'ancienne.
Ah coup. Ouais, grave.
Et en fait, ces crapules de Commerçant de Cartel. Tu vas pour acheter des vinyles et tu repars quand même avec un marqueur, tu vois.
Bien joué.
Parce qu'ils savent...
Bon marketing, là, quand même. Hein.
Ils savaient te mettre dans la filouterie, déjà. Donc
ça
voilà.
A commencé comme
en fait,
quoi,
je m'y mets parce que je veux participer, donc je m'y mets.
OK.
Tout seul, des soirs où sur le trajet pour rentrer du skatepark, des trucs comme ça, je me mets à faire des tags, je me mets à faire des graphes, voilà. Je crois que mon premier graphe, je le fais tout seul, au bord de la route.
Ah ouais
À Montpellier.
C'est chaud quand même. Hein.
Ouais, mais dans ma tête, c'est pas interdit. Dans ma tête, c'est...
Bah, après, tu voyais tellement de monde le faire, je pense que...
Tu vois sur les murs, tu vois, moi, dans ma tête, je suis hyper naïf, en fait, je suis vraiment en mode ignorant total.
Ouais, je vois.
Je dis, je vais en faire, j'en vois partout, donc je me dis,
j'en fais.
C'est open, quoi. Il y a moyen d'en faire, c'est pas.
Ouais.
Je vois pas l'interdit, en fait.
Ok.
Tu vois, c'est très candide, en fait.
Tu le vois arriver à un moment donné, l'interdit ou pas ?
Je le vois assez vite arriver, mais. En fait, pour te dire le truc, je fais un graphe, les voitures me klaxonnent, parce que je me cache pas, du coup. C'est pas interdit,
forcément.
Je me cache pas. Les voitures me klaxonnent, moi, je prends ça pour des encouragements.
Excellent.
Je fais un graphe, je me recule, je regarde le graphe. Je fais, ah, ça va pas du tout là. c'était vraiment, vraiment pas réussi du tout.
Ok.
Et donc je refais le graphe sur place.
Le
tu vois,
mec
je me
se
dis non, je peux pas laisser le mur comme ça, impossible. Donc je le refais. Donc je reste quoi, au moins une heure et demie devant le truc quoi. Et là je refais un graphe et là ça me convient à peu près.
Tout ça en plein jour, du coup.
Non, la nuit quand même.
Dans la nuit quand même.
J'ai quand même cette conscience-là de le faire la nuit.
On pourrait se poser la question.
Et en fait, je kiffe, quoi. Je me prête au jeu, je kiffe. Tu vois, je me mets à graffer tout seul. Donc, c'est le nom du crew de Roller. C'est 347.
Ok.
Tu vois, ça va être mon crew de graffiti de rue principalement. Et... On a une petite équipe et en fait, chacun dans notre coin, on s'y met un peu.
Okay.
Mais je crois, voilà, dans ce crew-là, il y avait déjà des taggeurs, des graffeurs.
Mm-hmm.
Il y avait Blop qui avait commencé avant moi. Moi, je commence dans mon coin. Puis il y a Namo qui fait des tags un peu dans son quartier aussi. Et puis en fait, on est tous, on fait tous du roller, mais on fait tous aussi du graff.
Okay.
Parce qu'on a ce modèle-là, en fait, des graffeurs...
Ouais, puis vous les avez suivis, quoi.
Ouais, on les enfin, imite.
On les,
par mimétisme, en fait.
Ouais.
Et un an plus tard, je fais une session roller où il y a Small, qui était très fort en roller.
Ouais.
Et il dit, oh les gars, ça tag un peu, j'ai vu, machin. Je fais, bon, nous, on fait, bah ouais, carrément, on est là. Et il dit, ça vous dit de faire un train ? Oh. On fait, bah ouais.
Tu
vois, la proposition.
Ah bah, tu peux pas décliner, quoi.
Tu l'as refusé, quoi.
Ouais.
Et on lui dit, bah ouais, on est chaud, mais là, on n'a pas de bombe, on n'a rien. Il nous dit, ah, suivez-moi, il n'y a pas de souci, on va aller chercher des bombes, on va aller faire un graphe sur un train. Et nous, on était comme des oufs, tu vois. Et moi et Blop. Et en fait, donc ça, c'est 2002. Et puis, voilà, on part en mission avec Small, on va voler des bombes, on va faire un train. Et en plus de ça, on le voit rouler immédiatement juste après, quoi. À 18h,
quoi. Le truc de fou.
Donc le truc de fou. Donc là, à partir de ce moment-là, là, c'est... Addiction directe.
Ah bah oui, voilà. Tu m'étonnes, tu m'étonnes.
Là, ça part à 100%.
Là, ça y est, t'étais piqué, t'étais...
Voilà, c'est ça.
Furée, ah ouais, belle histoire, hein. Pas mal.
Bah écoute, j'ai pas fait exprès.
Non, mais c'est des histoires comme on les aime. Moi, j'aime bien, c'est des vieilles histoires de graffiti comme ça.
Ah ouais,
c'est pour parfaire un peu mon éducation.
Yes.
Ok, donc du coup, Tu es ado, mais jusqu'à aujourd'hui, tu tagues toujours, tu fais toujours du graffiti ou pas?
Je fais toujours du graffiti, un peu en dilettante maintenant, parce que voilà, ça commence en 2001. Et en gros, il y a un gros parcours graffiti vandale jusqu'en 2009-2010.
Okay.
La grosse arrestation.
Oh.
Donc voilà, c'est beaucoup de rues, beaucoup de trains. Ça va faire des métros dans toute l'Europe. Vraiment, je suis impliqué vraiment à 100%. Quoi.
Oui, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement, tu avais pas mal voyagé.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est grâce à ça, je sais pas, ou...
C'est le voyage fait partie du truc du roller au départ, puis après on l'applique au graffiti. Et parce qu'en fait, quand tu graves des trains, tu as envie de collectionner un peu des modèles qui sont différents des trains que tu vois en France.
Forcément, ouais.
Donc tu t'aperçois qu'en Espagne, les trains, ils sont pas pareils, donc tu as envie de les graffer.
Et, ouais.
Et une fois que tu as capté que ça, c'est valable pour tous les autres pays, tu vas voir ce qui se passe ailleurs.
Je vais faire
quoi.
Des trains partout.
Voilà, donc ça, c'est... Voilà.
D'accord, donc beaucoup de trains pour Salamèche.
Voilà, oui. À peu près 500 trains en une dizaine d'années, ouais.
Purée, beau score.
Ouais.
Des soucis dans ces...
plein d'aventures, plein de péripéties.
Ouais.
Des soucis, je suis passé pas loin de la très grosse amende, mais j'ai eu quand même la grosse amende qui m'a bien freiné.
Ouais.
Et après ça, à partir de 2010, ça graffe un peu, mais qu'à l'étranger, en faisant attention.
D'accord.
Tu vois, de manière un peu plus professionnelle. Et il y a la pratique artistique qui se met en place aussi à partir de 2010-2011.
Ok.
Voilà, c'est vraiment une transition.
D'accord.
Et donc là, il y a des allers-retours entre l'atelier et la rue. Donc il se passe que la pratique, elle se fait à la fois dans la rue, à la fois dans l'atelier.
Ok, le glissement, justement, j'allais y venir, de comment tu es passé de la rue à l'atelier et comment tu as changé un peu de style en partant du graffiti pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Enfin,
c'est un long processus. En fait, le truc, c'est que nous, quand on faisait du vandal encore, on s'est mis à faire des toiles pour, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est pour un peu s'entraîner, faire passer le temps, poser des graphes et les garder, plutôt que de les poser dans la rue et puis les revoir.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Ensuite, pour faire des cadeaux. Tu vois, c'est l'anniv d'un pote, c'est l'anniv de quelqu'un qu'on kiffe, c'est l'anniv d'un graffeur, on veut lui faire plaisir, on n'a pas trop de sous et tout, donc on lui fait une toile plutôt que d'acheter quelque chose bêtement dans le commerce. Donc en fait, on le fait comme ça, au départ. Après, les gens, ils les voient.
Ouais.
Et en vrai, ils nous proposent des petites expos.
D'accord.
Ouais, vous faites des toiles, allez-y, faites une expo dans mon resto, faites une expo dans mon bar, faites une expo dans un truc.
Okay.
Et en fait, on se prête au jeu finalement.
Ça commence comme ça, quoi.
Ça se prête au jeu. Ça commence comme ça. Après, tu vends une toile. Tu vois, on te dit, tiens, celle-là, je te l'achète.
Okay.
Voilà, t'hallucines, tu vois, tu fais, waouh.
Il y a des gens qui veulent mettre ça chez eux.
Voilà,
du coup.
Et en vrai, tu sais pas trop comment réagir.
Eh
c'est genre, c'est cool les sous d'avoir un petit billet.
Ouais.
Mais en vrai, la toile, j'ai envie de la garder aussi.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Donc, il y a un truc comme ça qui se passe où tu te dis, il y a peut-être moyen de faire un billet. Et puis. Dans un truc que tu kiffes, moi je me suis prêté au jeu et après on a eu l'opportunité d'avoir un atelier à Montpellier par le biais d'un mécène, d'un architecte que je rencontre par hasard, qui me propose les clés d'une maison délabrée et en fait je dis oui et on a un lieu pour créer en fait.
Et c'est l'atelier parcours.
Et c'est l'atelier parcours.
Du coup, alors tu nous racontes un petit peu comment c'est né, avec qui.
En fait, moi j'obtiens les clés de la part de cet architecte qui s'appelle François Fontès, architecte très important de la région Montpellier-Rennes.
Très connu, exactement.
Voilà, très connu, quoi. Et en fait, j'hérite de cette... on me permet d'occuper cet espace, qui est une maison délabrée qui était squattée par des... qui était une crack house, en fait, squattée par des toxicos. Donc, c'est vraiment une maison délabrée, un taudis, quoi, en fait. Vraiment, qui, avec les odeurs, avec toute la
panoplie. Tout ce qui va avec, ouais.
Et moi, j'accepte donc d'occuper les lieux. Et en fait, je veux vivre l'aventure collectivement, comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Ouais.
Et donc, j'invite Small et Al à venir avec moi dans cette maison.
D'accord.
Donc, je leur dis, voilà les gars, on peut avoir cette maison-là. On peut l'utiliser en atelier. Et on a carte blanche, en fait, pour
Parce
faire
que
ce
vous
qu'on
voulez.
Veut.
Okay.
Donc, les gars disent, ouais, carrément, on est trop
ah bah,
chaud.
Oui, tu m'étonnes.
On occupe les lieux et en fait, on continue de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que
Small et Al, eux, ils avaient un atelier à ce moment-là ou ils n'avaient pas d'atelier où ils faisaient ça chez
non,
eux
Non, chacun faisait ça chez nous.
D'accord, ok.
Tu vois, on commence...
Donc chacun chez soi et du
voilà,
coup...
Voilà, on était dans cette phase de... On expose vite fait un peu à droite, à gauche.
D'accord.
Ça prépare vite fait des toiles à la maison. Moi, à côté, j'étais graphiste en freelance, tu vois. Donc, ouais. Je faisais aussi un peu d'infographie.
Ouais, ouais.
Al, il était déjà dans la photo. Mm-hmm. Il faisait des collages, des collages du format qu'il pouvait, tu vois.
Ouais.
Ça commençait à prendre du format, mais c'était encore, voilà...
C'était le début. Ouais, ouais.
Tu vois. Small, bah, il a toujours peint à mort, tu vois, que ce soit graphe, toile, machin. Voilà. De toute façon, on se contentait de pas grand-chose, quoi. Hein.
Mm-hmm.
Pas besoin de beaucoup, quoi. Mais là, on a un lieu, donc on peut se permettre de faire des trucs plus gros et tout. Et très vite, on se dit, bah, tu sais quoi, en fait, cette maison, on va la peindre de A à Z, sol, mur, plafond, et on va inviter les gens dedans parce qu'elle est bien placée dans Montpellier.
Ouais.
Et en fait, en discutant, on se dit, bah, on va appeler le projet, on va appeler ça le projet parcours. Parce qu'en fait, nous, notre art, c'était de restituer notre vécu dans la rue.
Okay.
Sur les trains.
Voilà. Okay.
En gros, c'était ça ce qu'on faisait.
Okay, okay.
On mettait. Et moi, très vite, j'ai commencé. D'ailleurs, ma première toile, moi, je l'ai fait en 2006.
Ouais.
Et c'était un panneau. C'était un panneau de signalétique publique.
Ok, d'accord.
Tu vois, c'était un panneau en métal. Là,
ouais, ouais.
Et j'avais peint dessus. Donc, tu vois, j'étais déjà dans récupérer des matériaux et repeindre dessus.
Ok.
Donc, c'était toujours un aller-retour entre la rue et l'atelier. Et donc, on a créé cette expo parcours qui a vu le jour en 2012. Et qui a été un franc succès, quoi, qui a mm-hmm. reçu plus de 15 000 visiteurs.
Ah
on
ouais.
a été intégré à la ZAD de Montpellier.
Excellent.
Ça a dépassé nos espérances.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, le projet devait être éphémère, la maison devait la garder que 2 ans.
Ouais.
Et finalement, vis-à-vis de ce projet, le propriétaire, il a dit, Monsieur Fontes, il nous a dit, les gars, moi, ce que vous avez fait, c'était vraiment, voilà, j'ai
c'est
apprécié.
Vraiment chouette, ouais.
C'était important pour la ville. Il a vu un nom, un peu un renouvellement dans la scène artistique
ouais, de Rennes. Ouais. Et du potentiel, du coup.
Voilà.
Ouais, ouais.
Un écho peut-être à des mouvements comme Support Surface, tu vois,
oui,
des gens qui travaillaient sur l'extérieur aussi et tout. Et en fait, il nous a dit gardez-la encore 2-3 ans. Et puis tous les 2 ans, il nous dit ça gardez-la 2-3 ans.
Ok. Voilà. Bon, il n'a pas de projet de faire autre chose avec cette maison pour l'instant. Donc,
Jusqu'à présent, non.
Okay.
J'espère qu'il va nous la laisser encore un petit peu, tu vois. Mais voilà.
Ben, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que tu nous as proposé. C'est Bad Bad Not Good, Time Moves Slow, et on revient juste après.
I say, oh, if I had another chance. is what you think in that day. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is we're better off this way. Time will show you can't hear a thing. Time will stop when you're lost in the dream. And the time.
On est de retour dans l'épisode de Terrain Vague avec Salamèche. Merci pour ce morceau très sympa. Pourquoi Bad Bad Not Good, c'est ce que tu écoutes
ouais,
en ce moment.
C'est ce que j'écoute en ce moment quand je peins à l'atelier.
Ouais, c'est plutôt sympa comme ambiance.
Ouais, merci.
On était en train de parler de parcours du coup avant de faire la petite pause musique. Donc tu me disais en antenne, ça fait une dizaine d'années à peu près que vous êtes.
C'est ça.
Dans ce lieu-là.
C'est ça.
Et il y a eu un peu de turnover dans les artistes.
Complètement.
Ou...
Ouais. Ok. En fait, donc il y a eu cette expo parcours. Et déjà, ça a transformé le lieu de faire cette expo, puisqu'on a peint, comme je t'ai dit, partout, sol, mur, plafond. Mm-hmm. Et on a peint comme si, en suivant l'idée que la finalité du lieu allait être détruite.
Ok, d'accord.
Donc on l'a peint un petit peu, c'était un peu une peinture sans retour presque.
Okay.
Tu vois, on a même fait des installations, on a scellé un banc dans du béton au milieu de la pièce centrale. Enfin, c'était vraiment de l'art total, tu vois.
Ouais.
Et en fait, finalement, on a pu la garder. Donc finalement, elle est restée un peu dans cette ambiance-là.
Ouais.
Et donc lui, Small, il a bougé dès le début de l'expo, lui, il a bougé parce qu'il devait préparer d'autres choses et tout. Il avait aussi un petit atelier chez lui. Donc lui, il a directement enchaîné sur d'autres trucs.
Okay.
On a gardé la maison Al et moi. Et puis très rapidement, on a pris d'autres...
On a permis
à d'autres résidents de venir, mm-hmm. puisqu'on a appris qu'on pouvait la garder. Donc il y a d'autres résidents qui sont arrivés, puis il y a d'autres personnes qui sont venues comme ça, qui sont greffées. Donc il y a eu Antoine Casals, il y a eu Katir, il y a Sico qui nous a rejoint, qui est encore là à l'heure actuelle. Il y a Azo qui est venu, il y a un céramiste Daru qui est venu aussi.
Ah, cool.
Quelqu'un avec qui on a des parcours croisés, tu vois. Et il y a un collectif qui s'est formé comme ça, de gens qui sont venus.
Okay.
Qui sont repartis au gré de leur projet, en fait, si tu veux.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est 4 artistes résidents. Donc, il y a Al. Il n'y a pas Al, non. Qu'est-ce que je dis, moi? Al, il est tellement resté longtemps que...
Il fait partie des murs.
Il fait partie des murs. Donc, en ce moment, il y a Sico.
Ouais.
Il y a Daru, le céramiste.
Ouais.
Il y a Nyark. Mm-hmm. Et il y a moi.
Et il y a toi, ok.
Nous, on est les 4 artistes résidents.
D'accord.
Et en parallèle, on a 2 artistes aussi qui sont en résidence permanente, on va dire, qui sont là, qui sont un peu greffés au collectif.
Ok.
Une autre céramiste qui s'appelle parfois Salomé.
Ah oui, d'accord.
Et un designer un designer caractère pour le dessin animé qui s'appelle Moke et qui est aussi un ancien graffeur et voilà.
On a vu sa super install à la galerie éphémère.
Voilà, exactement.
Trop bien avec les crabes bleus, la peinture fluorescente, c'était trop cool.
Voilà, il a fait le mur de Pérol aussi là.
Ok,
c'est
d'accord.
C'est lui qui a fait le mur de Pérol, donc il est du côté des plages, lui, en ce moment.
Ouais, ok, voilà. Je vois ça. Bon, trop bien.
Voilà. Et donc, c'est un collectif éclectique. Il y a de la céramique, il y a de l'illustration, il y a de l'art un peu abstrait, tu vois, du post-graffiti, en fait. Un petit peu, on a tous un peu baigné là-dedans.
Ouais.
Et voilà, on avance en parallèle, chacun, sur des projets, que ce soit des projets individuels ou des projets en collectif.
Ok.
Et on propose des portes ouvertes chaque année. Souvent, c'est en fin d'année.
Ouais.
On ouvre les portes de l'atelier, à la fois pour le voisinage et aussi pour tous les gens de Montpellier qui
nous
veulent
suivre, visiter,
nous voir.
Qui veulent toujours savoir comment c'est un atelier d'artiste.
Voilà.
Hein. Quand Line Up ouvre les portes aussi, c'est pareil. Il y a toujours une curiosité de voir les coulisses.
C'est ça.
Donc, toujours du monde, j'imagine, qui vient aussi chez vous.
Toujours du monde un petit peu. Après, ça reste un lieu un peu aussi. On est dans notre coin, tu vois. C'est un lieu de création. Donc, on est un peu comme des... on est dans notre caverne un petit peu, comme tous les artistes.
Normal.
Et voilà, et on crée au gré des projets, au gré de ce qu'on nous propose, notamment beaucoup aussi avec Line Up, tu le mentionnais et tout. Voilà, moi je travaille avec vous, Line Up, depuis
quelques
années
déjà,
maintenant. Voilà, sur différents types de projets.
Ouais.
On a chacun notre réseau aussi. Moi je suis un artiste local, vraiment, je bénéficie aussi de mon aura de graffeur et à la fois des projets que j'ai pu mener. Pour différents clients, pour différents projets citoyens, pour différentes associations, pour différents établissements scolaires. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Et à chaque fois, je fais ça de la manière la plus professionnelle possible, en mettant au service des projets, mon expérience à la fois de la street, de ce que je sais faire dans le graphe, mais aussi dans la peinture, parce que je considère que je suis un peintre, quoi. Depuis 2001, moi, je fais de la peinture, en
Complètement.
Fait. Donc, j'ai plus de 20 ans de peinture dans les mains, et j'essaie de faire évoluer ça le plus que je peux, en fait.
Et on voit ce professionnalisme, parce que je pense à deux projets assez opposés, par exemple avec Line Up, ou par exemple pour le festival 34 degrés à Juvignac, tu as fait un pont. Donc, tu as fait l'intérieur du pont, enfin le plafond, les côtés, enfin les faces extérieures, etc. Mais tu as fait aussi la passerelle qui relie Arnaud de Villeneuve à la Péronie, au CHU, en intérieur. Donc, c'est des projets hyper différents.
Complètement.
Finalement, mais tu sais t'adapter aussi à la demande, au public que tu vas toucher. Bah, parce qu'au CHU, c'est un public quand même hyper particulier. On a des enfants qui sont hospitalisés, etc. Et toi, t'as investi cette passerelle. Donc, tu les amènes, tu les fais voyager d'un endroit à l'autre de l'hôpital. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Mais tu les fais voyager aussi avec le pont de Juvignac. Je suis en train de me dire que t'es un peu dans le mouvement, comme ça.
Ouais, disons qu'avec le graffiti, on se met en scène. Donc, on veut être vu. Clairement.
Ah oui, complètement.
Quand t'es graffeur, tu veux être vu.
Ouais.
Bon, après, quand t'es artiste, tu veux être entendu, tu veux être vu, tu veux diffuser ton art. C'est normal.
Ouais.
Et là, dans ces projets, faut vraiment prendre en compte le public qu'on a. Et je trouve que par rapport à une production personnelle où c'est vraiment un peu l'ego de l'artiste, un truc très un peu égocentrique et tout, un peu même dans la culture hip-hop, c'est que ça, c'est que de l'ego trip.
Complètement.
Tu vois, on parle d'ego trip.
Ouais, ouais.
Et là, dans ces projets un peu à l'hôpital avec les enfants et tout ça, là, ça redonne du sens, tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, ça donne du fond à la démarche.
Voilà, c'est ça. Et moi, je me suis toujours considéré comme... je voulais pas grandir, tu vois. Je voulais pas participer, faire partie de ce monde adulte dont je me méfie beaucoup, toujours à l'heure actuelle.
Ouais.
Et garder cette petite... désinvolture de l'enfance.
La candeur et l'innocence, ouais.
Tu vois, même... Même le truc que quand tu es dans la forêt, quand tu construis une cabane ou quand tu vas faire des petites filouteries d'enfants, tu vois. Moi, je l'ai transposé au graffiti, à la rue. Voilà, en allant jusque là où on a allé, c'est sûr. Mais toujours avec cet esprit quand même plutôt de la filouterie.
Je vois.
Voilà.
Ça te caractérise bien, je trouve.
Ouais.
Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que tu as comment se profile 2024 pour toi en termes de projets, d'expos
Ça se profile bien. Ça se profile. J'ai toujours beaucoup de projets.
Ouais.
En fait, je suis toujours sollicité continuellement.
Bon, ça, c'est cool.
Là, j'ai déjà fait un mur au mois de janvier pour un collectionneur à Montpellier, donc chez lui. C'est pas un
chez
mur
lui,
public, c'est un mur privé.
Plutôt cool quand même, des commandes comme ça.
Ouais, très agréable pour commencer l'année. Là.
Carrément.
Très agréable. Et ensuite, là, j'ai 3 autres murs de prévu.
Ah oui, déjà.
D'ici le mois d'avril.
Belle.
Donc, ça va être dans des écoles.
Ok.
Dans des écoles pour des projets très intéressants autour de l'art plastique, pour investir des murs avec des morphologies un petit peu intéressantes aussi. Mm-hmm. À chaque fois, moi, je préviens les institutions, les groupes scolaires ou qui me sollicitent. Je leur dis, moi, si on fait un projet ensemble, mais je veux qu'il y ait un mur.
Ouais.
Je veux que ça puisse m'intéresser artistiquement. Sinon, je ne vais pas prendre du
plaisir,
ou du temps pour le faire.
Ouais, ouais.
Et donc là, il y a 3 murs. Et ensuite, je prépare une exposition solo aussi dans l'atelier. Donc là, je suis en production sur des œuvres, sur des toiles, sur de la matière urbaine aussi, des stores découpés, de l'affichage, du déchirage d'affiches, lacérer, etc.
Ok.
Donc voilà, autour de mon propos de la matière urbaine.
C'est pour quand cette expo ?
Il n'y a pas de date encore.
Ah, il n'y a pas de date encore.
En fait, là, j'essaie de faire une expo un peu plus professionnelle dans le sens où je ne vais pas me fixer une date d'échéance et de voir, tu vois, si
D'accord,
tu veux
okay.
produire une collection.
Pour cette date-là.
Pour cette date-là. Ouais. Et du coup, me contraindre finalement à une deadline.
Ouais.
Je préfère construire Prendre une collection solide, à mon sens. Et là, la présenter quand je serai prêt.
D'accord.
Voilà, donc j'ai changé un petit peu mon angle d'attaque. Voilà. Et donc, ce sera à la galerie GT à Biarritz.
D'accord.
Ou alors à la galerie Villa Chen à Colmar.
Okay.
Ou alors dans un lieu secret à Montpellier.
Ouh.
Tu vois, même le lieu, il n'est pas encore défini.
Ah ouais, j'aime
Donc
bien.
Je me refuse rien.
J'aime bien, c'est très mystérieux. Bon, on reste on se tient au jus de cette expo à venir.
Bien sûr.
Et ce sera peut-être du coup l'occasion de revenir au micro de Terrain Vague pour en parler.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Salamèche, d'être venu chez Divergence. Merci à Bruno en régie et merci à Tom qui est arrivé. Et merci à tous, à très bientôt.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.